bien, pour terminer l'émission, je voulais revenir sur une motion du congrès de la Fédération anarchiste réunie le 27, 28, 29 mai 2023 à Cologne, intitulée « Ni capitalisme vert, ni nucléaire ». Et qui dit que, notamment, qu'à cause de l'industrie, l'agro-industrie et des pesticides, la faune sauvage disparaît de façon plus ou moins importante, parfois même irrémédiablement. Les sols s'appauvrissent, la pollution s'accentue, l'accès à l'eau se raréfie et la guerre autour d'elle se rapproche, comme à Sainte-Soline. Les ressources minérales sont surexploitées, le vivant est compris trop souvent comme ressource qu'il faut s'accaparer. Les États organisent et accompagnent cette situation, législation adaptée, financement dédié, répression des oppositions, accroissement volontaire des peurs pour s'afficher comme le sauveur unique. Tout ceci assure l'expansion du capitalisme en développant sa variante verte. Les États jouent sur les chiffres, déforment la réalité, modifient le vocabulaire en fabriquant une nouvelle langue. Ainsi, comme l'alchimiste change le plomb en or, le nucléaire devient une énergie verte, bas carbone et neutre. Alors que c'est une énergie centralisée, reposant sur l'extractivisme mené notamment dans nos ex-colonies, polluant et gaspillant l'eau, engendrant des déchets pour des millénaires et imposant une société sécuritaire et militariste. Devant ce constat, la Fédération anarchiste réaffirme en son 81e congrès à Cologne la nécessité de lutter contre le capitalisme, qu'il soit vert ou non, et pour une décroissance libertaire, entendue comme le ralentissement du cycle production-consommation, une désescalade donc, selon les capacités de la planète et sous réserve que les besoins essentiels des populations soient satisfaits dans quelque partie du monde que ce soit. En effet, les anarchistes postulent que le simple fait de naître donne le droit de vivre de manière égalitaire avec un même accès aux richesses. La Fédération anarchiste insiste sur la nécessité de lutter pour un autre rapport au vivant et à l'environnement inséré dans une nécessaire révolution sociale et libertaire. Voilà, on peut que souscrire à ce communiqué. En tout cas, pour ma part, je le fais. Nous arrivons en fin de l'émission. On va se quitter justement avec une chanson sur le temps du plastique. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. Et pour notre part, si mes calculs sont bons, on se retrouvera à l'antenne pour une prochaine émission le premier lundi du mois de juillet. Donc c'est normalement le lundi 3 juillet, si mes calculs sont bons, à 18h. Restez à l'écoute de Radio Libertaire, la plus rebelle des radios. À bientôt.
Si l'on mettait le temps du plastique en musique, zic, zic, on y perdrait son temps. De temps en temps, en y gagnant des sous et des bijoux en plastique, bien plus économique, mique et bien plus intéressant que les diamants que l'on prend au bout des gens, car le temps du plastique, c'est bien plus fantastique, tic, on y voit le printemps passer son temps à faire et à faire des fleurs en papier. Si l'on mettait le temps des pin-up au pick-up, et hop, on y gagnerait son temps et son argent tout en y perdant niette, à part le chouette. Mais le chouette, tu le repeuples, arrivera ton pick-up, et hop, sans avoir à poser à ces pépés qui font pique, qui font pique, qui font pitié. Car le temps des pin-up passera, et puis hop, puis hop, puis hop, ces pin-ups que l'on pique, et hop, sur les murs des maisons, des cons, des cons. Si l'on mettait le temps des fanfares à la gare, 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 on perdrait pas son temps de temps en temps, et l'on y gagnerait quoi, se faire bien la joie, car mieux vaut une guitare que les sonneries de la gloire, et que les salons de lune connus, cossus, où l'on se filme les potins et le popotin, car le temps des fanfares, ça s'en va d'art, 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 on y voit des plus à qu'un caté, ni point crevé comme crevé comme, comme tous les hommes. Si l'on mettait le temps des piles à la gare et les fanfares en plastique et pillable, on serait peinard. Il n'est peut-être pas trop tard, trop tard, trop tard, trop tard.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Minou, où est-ce qu'il est encore passé ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct sans retenue ni complaisance chaque 1er, 3e et 5e lundi du mois, par ses militants, sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Running wild, lost control. Édito du lundi 5 juin 2023 du Monde Merveilleux. D'après quoi ? Le Covid ? La révolution ? Demain, vous aurez une manifestation monstre. Ça va chier les bulles, on m'a dit dans les milieux jeunes. Je crois plutôt que c'est le dernier soubresaut d'un corps social mourant avant les grandes vacances. En cette journée mondiale de l'environnement, beaucoup se réjouissent déjà de l'ardeur du soleil de juin, préfiguration d'un bronzage estival à jamais égalé. Préserver la planète pour les générations futures, cela fait plus d'un siècle que nous, anticapitalistes révolutionnaires, nous dénonçons les méfaits de l'industrialisation, de l'urbanisation, du consumérisme, de la spéculation des biens communs. Alors merde, fallait nous écouter avant et faire la révolution qui s'imposait. Ce qu'il faut, c'est tout foutre par terre, tous ces parlementaires corrompus par la bêtise et la compromission, c'est renverser un pouvoir autocratique et césarien, c'est rétablir l'ordre social, mais sans la flicaille militarisée, c'est rejeter le système électoral bourgeois, le parlementarisme d'intérêt lobbyiste et l'abêtissement éducatif national. Alors sur ces saines paroles, me direz-vous, camarades, par quoi on commence ? Vous le saurez à l'écoute du Monde Merveilleux du Travail, avec le mythe de la grève générale et l'action directe en point sur la gueule. Et tout de suite, sans haine ni passion, nous enchaînons sur notre chronique collective, l'almanach culturel de l'actualité brûlante sur le thème du martyr du pouvoir.
Déguisé en flic, sales enculés, c'est bien foutu leur combine.
La société qui est bien foutue, elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
Soirée.
quand il est agent, c'est le plus charmant des hommes, avec même de l'éducation.
Et instruit, capable de causer tout.
Chers auditeurs et chères auditrices, la vie devient de plus en plus dure. Hein ? Pas la vôtre, celle de vos élus. Vos élus politiques d'abord, qui sont harcelés, menacés. Bien sûr, ils ont fait le choix d'un parti politique pour se présenter aux élections diverses et variées. Vous me direz, oui, mais dans les mairies, c'est pas pareil. Le maire est proche de ses administrés, oui, mais il a fait un choix politique quand même, et surtout, il soutient et maintient un système crapuleux représentatif bourgeois, qu'il soit de droite ou de gauche. Il est l'interface entre un pouvoir présidentiel autoritaire et les gens du commun. La vie devient dure aussi pour vos élus professionnels. Les législateurs leur ont ôté toute possibilité correcte de représenter leur corporation et les salariés qu'ils représentent. Bon d'accord, ils acceptent l'ordre des choses et le système bourgeois qui justifie leur existence. Il y a là, évidemment, une dissonance cognitive. Les médias institutionnels, quand ce n'est pas le pouvoir politique en place qui désigne les directeurs ou directrices de chaîne, ce sont les capitaines d'industrie ou de la finance qui contrôlent et orientent les rédactions. Autant vous dire que c'est Colin Maillard et Tartampion qui sont les rois de l'information, comme disait l'autre.
Eh oui, les martyrs du pouvoir. C'est le premier point. Le maire d'hiver droite de Saint-Brévin-les-Pins, vous ne connaissez pas, tiens, a lâché prise. Ah oui, si, Saint-Brévin-les-Pins, je ne sais plus. Moi. Un maire dont les appuis politiques, je n'habite pas une grotte, les appuis politiques sont complexes, une politique d'extrême droite, autoritaire et néo-fasciste. Il fallait s'attendre à avoir une réaction vive des fachos qui l'ont mis au pouvoir, surtout après l'annonce de l'ouverture d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Même si toi, pauvre maire innocent, tu ne partages pas les idées racistes de tes pères, tu contribues à leur expansion. Ça ne justifie pas qu'on crame tout chez toi et qu'on fout toute la trouille à toute ta famille, bien sûr. Deviens syndicaliste révolutionnaire, comme ça il n'y aura pas de surprise sur tes démarches politiques. Il n'est pas le seul, le Yannick, à être martyrisé. Le petit neveu,
aussi.
Évoqué le petit niveau aussi, de Brigitte, chocolatier de son état, presque pâtissier, a reçu des pains. C'est pas illogique dans le sens de sa profession. Trois inculpés, des marginaux, des ceux qui veulent pas de la retraite à 64 ans, et lors d'une manif non déclarée. Fallait pas sortir de ta boutique pour défendre ta famille, ou la famille, ou je ne sais quoi d'ailleurs. Quand on a un patrimoine familial aussi borné, on ne ramène pas sa fraise sans se prendre d'une tarte. À cela, Darmanin, le 17 mai dernier, sur France Inter, à 8h du mat, comme dit mon camarade qui insiste lourdement, annonce une baisse de la violence dans le domaine conjugal et privé, femmes et enfants. Forcément, quand on ne peut pas compter sur l'intervention des flics, on finit par ne plus les solliciter. Quid de la police ? Non, pas de violence. Leur réaction dans les manifs est proportionnée à l'agression. Les flash-balles, presque pas létales, les matraquages de manifestants et les tasers électriques pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est devenu l'équipement habituel d'un service d'ordre entre les mains desquels on a mis des joujoux qu'ils ont hâte d'utiliser mal.
Et heureusement, les médias voient tout. Les Verts Baudets sont en grève depuis plus de 2 mois. Il aura fallu attendre que Mohamed, délégué syndical CGT, se fasse kidnapper, battre, insulter par des flics en civil pour que l'on en parle. Mais bon, ce n'est qu'un événement isolé de fonctionnaires de l'État, fatigués, las, sous la pression sociale. Un événement isolé comme il en a eu d'autres, Sharon, Malikou Sekine, Yanis, Adama Traoré, Cédric Chouvia, le livreur mort d'une clé d'étranglement en 2020 pendant le confinement, les rafles du Veldiv, un petit peu plus loin, beaucoup plus loin même, les mutilés pour l'exemple, et Serge, un des derniers. Je vous mets ça pêle-mêle, selon une liste non exhaustive. Vous pensez bien que la flicaille n'est pas là pour sévir. Les médias institutionnels nous parlent allègrement des violences domestiques, du domaine privé. Les bavures policières ne sont qu'un épiphénomène de quelques-uns. Il n'y a donc pas que la justice qui est aveugle. Et quand je dis ça, je ne parle pas des gilets jaunes. Pour revenir à Saint-Brévin, dont Éric ne se souvenait plus de l'existence, figurez-vous que les plages ont été envahies de méduses. Et dès qu'on n'en avait jamais vu, On dirait des capotes un peu rouges. Ça, c'était dimanche, le 4 juin, 7h40.
Du matin.
Ça, c'est de l'info, ça. Hein, vous vous rendez compte? Le jour de la fête des mères, donc le dimanche 4 juin. Voilà, ça, c'était à 13h. Oui, donc on nous cite la fête des mères, cette institution politique patriarcale et nataliste proposée par le maréchal Pétain et maintenue commercialement par les lobbies des fleuristes. Ce sont quand même des informations bien plus importantes que l'annonce de la manif le même jour pour la commémoration des 10 ans de la mort de l'antifa Clément Méric, tué par des fachos qui ne troublent pas l'ordre public.
Bah oui, faisons tant que le préfet Nunez ne s'inquiète pas du défilé du GUD, tout va bien. Pas de trouble à l'ordre public. Et depuis toutes ces années que ces miliciens défilent, hein, le trouble à l'ordre public, c'est quand tu sors avec une casserole gling-gling ou glang-glang. Ah oui, mais le bras tendu, non. D'ailleurs, durant les congrès de Nuremberg en 1934 ou...
Une
et d'autre. Ailleurs, d'ailleurs, autre part, enfin, une autre date... Il n'y avait pas de trouble à l'ordre public, c'est même plutôt dans un esprit bon enfant, scoutiste. Hein, en culotte de peau, on pouvait se toucher sous les douches. Maintenant, c'est plus pareil, on préfère davantage les défilés d'extrême droite en bon ordre que des manifs sauvages anarchiques. Eh ben, ils ont bien raison quand même, faut pas déconner. Par arrêté préfectoral, des drones seront utilisés pour surveiller tout ce petit monde. Eh oui, lors de la manif du 6 juin à Strasbourg. C'est inédit. Le texte fait référence à des faits, je cite, graves de violence, de destruction et de dégradation, et, je cite encore, des blocages, des feux de poubelle, quelle horreur, des vitrines brisées et taguées, c'est pas croyable. Ça ne doit pas être dans cet ordre. Hein.
Tu les tagues, après tu les brises.
Oui, voilà, Mais on commence par les briser, après tu utiliseras moins de peinture. Lors de la manifestation du 17 mars, ainsi qu'aux, je cite, 15 fonctionnaires de police blessés. On ne sait jamais où ils ont été. Est-ce qu'ils se sont retournés un ongle? Est-ce qu'ils... On ne sait pas. Hein. Mais le GUD, ils ne font pas référence à des faits historiques provoquant des faits, je cite, graves de violence, de destruction et de dégradation. Oui, mais j'étais pas né, moi, l'histoire, ça commence au début du mouvement contre les retraites. Donc, circulez, sinon je vous embarque.
Voilà. Alors, avant de lancer la petite musique, je voudrais faire quand même une petite dédicace à nos camarades de la section police nationale. À nos chers amis policiers, hein. Et puis, eh ben, voilà, après, vous prenez ça, ça vous fait rire ou ça vous fait pas rire, mais c'est de l'anglais.
I can't relax. This Colonel Sanders job is getting me down. A crazy chicken chasing me all over town. Ah! Psycho chicken. I plucked him once, why pluck him again? The psycho chicken.
Little chicken. pigs and someone took him home. Ate him for lunch and it tasted real fine. But the guy who ate him, he just lost his mind.
Psycho chicken,
qu'est-ce que c'est?
Voilà, c'était The Fools, un groupe anglais qui reprenait Psycho Killer de Talking Heads. Mais voilà, vous avez compris pourquoi je dédiais à nos chers policiers, forces de l'ordre.
Forces de l'ordre, quel ordre?
Ah ben, de l'ordre bourgeois, c'est-à-dire le bordel, le tabassage et puis tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie d'une émission. On avait entamé, je sais plus à quelle date, il y a à peu près un mois, quelque chose comme ça. Un copain, Frédéric, qui est pas revenu.
Sur l'antiparlementarisme.
On avait vu un petit peu la construction du parlementarisme, qui est liée, surtout... avec la création de la République, et puis on s'est arrêté fin du 19e siècle, chose comme ça, avec l'arrivée des syndicats.
Voilà. Et la fin du 19e siècle, c'est vraiment l'expansion, on connaît une expansion de l'antiparlementarisme. Donc c'est là que c'est intéressant.
Oui.
Parce que, et parmi toutes les expressions de l'antiparlementarisme à la fin du 19e siècle, il y a le parlementarisme, l'antiparlementarisme idéologique. C'est-à-dire qu'il ne procède pas de je suis contre parce que ça ne me plaît pas, parce que il y a des. Voilà, c'est pas ni individuel ni institutionnel, on est sur de l'antiparlementarisme qui a pour objet la construction d'un autre, une autre société, donc sans parlement et sans parlementaire. Donc là, c'est novateur.
Oui, parce que c'est vrai qu'avant, en fait, c'était plus une critique sociale, une critique de l'État et de la bourgeoisie qui détient. C'est pas forcément. Ouais. Enfin, après, s'il y a une critique des parlementaires, plus en fond. En tout cas, des abus. Des abus de biens sociaux.
Ouais, très certainement.
Des abus, des privilèges liés à leur mandat.
Et puis c'est le fait surtout de ceux qui ne sont pas à la place de ceux qu'ils critiquent. Je sais pas si ils les critiquent parce que finalement la place est bonne déjà, tout le monde le sait et que.
Ah mais, pas forcément parce certains l'ont. Et on goûtait justement à ce. J'ai dû évoquer Louis Blanc, qui avait été déçu justement. Proudhon aussi, en 48, a été député. Du coup, ça leur a appris que oui, ça ne servait pas à grand chose. C'est ce qu'il fallait, effectivement, c'était une révolution sur d'autres bases. Après, il faut chercher. Proudhon, c'était le mutualisme. Ouais. Effectivement, ça peut se passer de parlement, ça ne se passe pas de discussion, d'accord entre chacun, mais c'est sur le libre, d'abord basé sur le fédéralisme et la libre association.
Moi, je pensais à la période antérieure, c'est-à-dire au début du 19e siècle, où effectivement l'antiparlementarisme, c'était surtout une chasse aux places, quoi. Où on avait beaucoup d'opposition, la critique du parlementarisme par ceux qui auraient bien aimé. Jouir des privilèges du pouvoir. Ça aussi, c'était quand on est dans une opposition, on a tendance
à... Il va falloir que tu précises, parce que là, je suis pas sûr que les auditeurs aussi resituent bien...
Lorsqu'on critique le pouvoir le parlementaire, parce que notamment...
Qui? J'ai cité Proudhon, oui. Louis Blanc.
Ça peut être, je pense notamment aux ultra-royalistes, qu'on critiquait le. Mais c'est une critique. Sauf que quand ils l'ont critiqué, tant qu'ils n'ont pas pris le pouvoir, une fois qu'ils avaient été majoritaires à la Chambre, les critiques n'existaient pratiquement plus. Donc c'était une façon de critiquer le fonctionnement, les privilèges, l'embourgeoisement, etc. Et quand ils ont repris l'avantage lors d'élections, et ça a duré pendant quelques années, la critique s'est tue aussi. Donc là aussi c'est un peu d'opportunisme. Et donc c'était pas très intéressant toute cette période-là, puisqu'en fait elle apportait rien d'autre que une critique superficielle, sans vraiment qu'on se sépare du parlementarisme. Et à la fin du 19e, en revanche, il y avait des projets qui envisageaient le... Alors moi, ce que j'appellerais plutôt l'aparlementarisme, parce qu'on est... on n'a pas besoin du Parlement. Et
être aparlementariste, parce qu'on n'a pas besoin de Parlement, mais puisque le Parlement existe, on peut être anti-parlementariste pour viser l'aparlementarisme.
Je suis dans une finalité, c'est-à-dire que le moyen, oui, c'est l'anti-parlementarisme. Et je ne suis pas convaincu, je réfléchis encore là-dessus, je ne suis pas convaincu, mais aparlementariste, oui. Voilà, c'est sémantique, mais c'est important.
Donc on peut circonscrire l'anti-parlementarisme, s'il y en a eu un quand même, sur la période de la... Troisième, quatrième république.
Oh, facile. Ah oui, c'est l'expression la plus vive. Ouais. Ouais. Bah oui, parce que c'était le troisième et quatrième république, c'est la grande époque du parlementarisme. Hein. C'est l'assemblée, les deux assemblées ont tous les pouvoirs et décident de la conduite de la politique. Hein. On l'a vu notamment avec les incohérences d'une quatrième république où les gouvernements se succédaient à une vitesse folle sans être capables de sortir d'aucune des crises qu'ils avaient produites du reste. Bon.
Justement, les crises, soit pendant la troisième ou la quatrième république, peut-être les évoquer quand même. C'est pas que ça va meubler, mais ça va construire un petit peu... au sortir du Second Empire, effectivement, la République et le parlementarisme peut être souhaité. Parce que c'est pas qu'on s'émancipe, mais on échappe, on ne va plus revivre l'Empire. Sauf que très vite, à mon sens, hein, les élus vont être confrontés à des choix, ou en tout cas vont être sollicités par des lobbies, par des banquiers, par des... Et c'est ce qui va créer un rejet du parlementarisme par la population et aussi par les opposants politiques et notamment les opposants révolutionnaires qui, eux, donc on va dire les socialistes révolutionnaires vont englober donc à cette période à la fois les proudhoniens, donc les mutualistes, les anarchistes, les blanquistes, les différents courants socialistes qui en fait ne cherchent pas à proprement parler à rentrer au Parlement. Ça va se faire progressivement, sans doute même plus après la crise boulangiste. C'est-à-dire que
c'est les seuls. Hein, les autres viennent à la soupe, mais c'est les seuls courants qui ne cherchent pas à profiter du système parlementaire, ni à s'y inscrire.
C'est le courant révolutionnaire. Sauf que le courant révolutionnaire, il va aussi, donc du coup, après la... donc du coup, après la répression de la Commune de Paris et...
la crise bourgeoise.
Une dizaine d'années après, et notamment avec l'exclusion des anarchistes de la Première Internationale, des socialistes vont, enfin, les anarchistes vont se dissocier des socialistes révolutionnaires, et parmi les socialistes, bah, il va y avoir des révolutionnaires et des réformistes, ou des socialistes de parlement, et là, ils vont commencer à rentrer dans les... Ils ont une autre logique d'appropriation du pouvoir.
Il y a un embourgeoisement d'une partie de du mouvement socialiste, hein. Très clairement. Et puis, ce qui a fait, ce que j'ai souligné à l'instant, c'est ce qui a le facteur déclenchant, ça a été la peur suscitée par un presque coup d'État boulangiste. Et ça, qui menaçait de supprimer, enfin, tous les pouvoirs intermédiaires, enfin, directement le chef et le peuple. Voilà, c'était.
Alors, peut-être, pour les auditeurs qui nous écoutent, ils connaissent pas forcément super bien l'histoire, peut-être rappeler ce que c'est que le boulangisme. Oui, c'est pas vraiment un courant de pensée à proprement parler. Pour moi, c'est plutôt un agglomérat de courants de pensée qui porte son espoir électoral sur un général, général Boulanger.
Ouais. C'était pas le meilleur, mais
ça peut être le meilleur, mais c'est celui qui avait visiblement qui était le plus
qui montait bien à cheval.
Et pas qu'à cheval. mais voilà, bon, il avait visiblement suffisamment de charisme pour avoir la sympathie des masses.
Et le financement de ceux qui voulaient renverser le pouvoir. Donc, une grosse fortune, notamment des familles réactionnaires.
Voilà. Donc en fait, le boulangisme, hein, c'est. On pourrait associer ça à un courant d'extrême droite.
Un courant nationaliste, patriotico-nationaliste. Ouais. Et dont le dessein était d'aller directement, c'est un courant plébéien, hein, c'est aller directement du chef au peuple, quoi, sans passer par tous ces corps intermédiaires inutiles. Et du coup, alors, ça filait les jetons aux bourgeois, et ça filait les jetons aussi une partie des socialistes modérés. Ils se sont dit, on va se retrouver à nouveau sous la coupe d'un empereur ou d'un César.
En tout cas, d'un chef militaire. Comme Napoléon.
Ouais. Et ni une ni deux, bah, ils se sont... Il y a eu des alliances contre nature. Pour repousser Boulanger, Déroulède, le poète fou, et un certain nombre de... C'était quand même des postes romantiques allumés, quoi. Mais dangereux. Dangereux, parce que derrière, il y avait les premières formations qui donneront ensuite les ligues. Qui donneront très rapidement, d'ailleurs, les ligues apparaissent en même temps que le boulangisme. Les ligues, c'est des gens armés, militairement organisés, avec... pas forcément envie de discuter, quoi. Donc, tac, hop, on va se ruer sur le Parlement et adorer le veau d'or.
Mais heureusement, il avait des sentiments, Boulanger. Ouais. Et il a pas été jusqu'au bout, puisqu'il s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse, sa défunte maîtresse.
Ouais.
Ah bah ouais. Ah, c'est un petit peu déçu tout le monde.
Ah, c'est, ouais.
À tous ceux, bah, qui, tous ceux qui croyaient en lui, en tout cas.
Ouais.
Mais justement, alors se développe effectivement un esprit patriotique. Alors, c'est vrai que dans les précédentes émissions, on avait déjà évoqué je sais plus comment s'appelait, la Grande Dépression, une crise économique qui avait provoqué la chute de Ferry aussi. Donc c'est 1885. C'était même un petit peu antérieur à Boulanger, du coup.
Commence à 1882, la crise économique, le crack.
Et je sais plus ce que je voulais dire.
Ben, et ensuite, ça a provoqué la chute de Ferry.
Mais c'était pas ça, c'était l'essentiel. Mais si, voilà. Donc, il y a une contestation sociale aussi, puisque, en fin de compte, les gens commencent à plus avoir à bouffer. Mais ça n'est déjà pas grand-chose, encore moins. Et puis même au sein du Parlement, et puis justement les ligues, elles, ce qu'elles veulent, c'est récupérer l'Alsace et la Lorraine. Non, mais c'est reprendre la guerre contre la Prusse, puisque la Prusse avait battu la France en 70. Et va se développer aussi un courant anti-patriotique chez les révolutionnaires. Alors c'est l'anti-parlementarisme en fait des révolutionnaires va englober quand même pas mal d'idées, et notamment l'anti-patriotisme qui lutte en fin de compte contre contre moi ce que j'appelle l'extrême droite, même toi c'est du nationalo-patriotisme.
Il y a plein de courants dans l'extrême plein de courants qui n'ont rien à faire ensemble, qui
savent s'associer.
Ça s'associe pour faire chier le monde. Exact. Alors c'est intéressant parce qu'on a aussi, et ça, parce que je regardais la petite annonce de nos camarades qui nous invite, ils nous appellent à lutter contre la femme olympique. C'est à ce moment-là que.
2024.
Ouais. C'est à ce moment-là que. Fin 19e, que Coubertin, il commence un petit peu à regarder ce qui se passe pour. Il faut faire de la gymnastique, avoir un corps sain dans un esprit sain, non l'inverse. Et c'est pas dénué d'intérêt parce qu'il faut apprendre aux jeunes à sacrifier à nouveau pour.
L'esprit de
compétition, la patrie est en danger, on veut l'Alsace et la Lorraine.
La physique de rêve pour pouvoir porter les armes et le barda.
Ouais, puis pour séduire et se reproduire et faire des petits soldats pour demain. Ouais, non, mais tout est. Voilà, il y a un faisceau de. Et effectivement, il y a les socialistes révolutionnaires, les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires, sont opposés. Et leur anti-parlementarisme, c'est aussi ça. C'est que. Parce que toutes les subventions sont votées par le Parlement. Hein. Toutes les idées de Coubertin vont être financées par l'État. Hein. Donc on ne demandera pas au clampin, à l'ouvrier, si ça lui plaît. Et puis
déjà à l'époque, ils touchent bien les mecs. Hein. Ouais. Parce que du coup, en 1891, c'est l'époque de Boulanger. Il y a l'affaire de Panama qui débute.
Ouais. C'est pas les Panama Papers, hein. c'est déjà les Panama Affairs.
Mais il y avait déjà Panama, voilà. Enfin, il y aurait à peu près, on aurait estimé, il y a une enquête qui a été ouverte donc en 1891, parce que c'est un petit peu antérieur Panama, et il y aurait 104 parlementaires quand même qui auraient touché des sommes entre 1000 et 300 000 francs.
Voilà. Il y a une inégalité de traitement.
Ça dépend à quel niveau ils étaient, tu vois, impliqués. Ouais. Il y a le mec que vous l'apporte, bon, toi t'as 1000. Et puis l'autre qui signe le contrat, t'es 300 000. Toi. Non, c'est pas. Tout ça, ça. Ouais. Alors effectivement, ça alimente la crise boulangiste. Et puis, la crise révolutionnaire aussi, on va dire. En plus, c'est une crise. Ça va énerver en tout cas encore plus les révolutionnaires. À l'époque.
Effectivement. Et par contre, il n'y a pas d'amalgame ici. Hein. Il y a des courants totalement différents. Hein. Deux anti-parlementarismes totalement différents. C'est intéressant. Il faut souligner. D'un côté, c'est un anti-parlementarisme institutionnel ou même individuel. C'est-à-dire qui. Tous les vendus, machin, tu vois, au bistrot, tous les vendus, on peut imaginer en 1890. Et puis, de toute façon, on n'a pas besoin d'eux, on veut décider nous-mêmes directement ce qui est bon pour nous. Donc on ne veut pas être représenté, en tout cas pas comme ça, quoi. Ça fait.
Bah,
une petite pause.
On s'est fait une petite pause musicale, hein, oui. En se mettant Révolte de Sébastien Faure, interprété par les René Binamé, ça donnera un petit peu l'esprit des, qu'on peut avoir à l'époque de. Enfin bref, donc est-ce que notre technicienne tu mets le pouce en l'air? Oui, c'est là, sur le CD, ou même sur la clé, lui, ça s'appelle Révolte. On va s'écouter ça. Je meuble un peu hein, pendant que ça... Voilà.
Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui courba nos pères, car nous voulons nous affranchir de ceux qui causent nos misères. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduit au labeur qui nous mine. D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance, c'est nous tous qui produisons tout, et nous vivons dans l'indigence. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. L'État nous écrase d'impôts, il faut payer, ses juges s'appliquent, et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre, on nous mitraille. Les maîtres ont changé sans foi, c'est le jeu de la démocratie. Quels que soient ceux qui font les lois, c'est toujours la même supercherie. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie, on nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie. Nous ne possédons rien de rien, nous avons horreur de la guerre. Voleurs, défendez votre bien, ce n'est pas à nous de le faire. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Donc on vient d'écouter les René Binamé qui interprétaient Révolte, attribué à Sébastien Faure.
Bah, comme on disait, il n'y a pas grand-chose qui a changé hein, sur les réclamations. on n'a pas eu gain de cause, hein, on n'a pas été très entendu. Oui, eh ben, on va traiter maintenant directement, sans transition, de l'antiparlementarisme des syndicalistes révolutionnaires, des anarcho-syndicalistes.
Ouais. Les syndicats, au départ, ne sont pas forcément syndicalistes révolutionnaires. Même Pelloutier, Fernand Pelloutier, qui est le secrétaire de la Fédération des Bourses, même lui méfie un petit peu de la CGT, la Confédération Générale du Travail de 1895. Ça lui paraît un petit peu trop vertical. Donc lui, et je crois que c'est un acteur éminent du syndicalisme révolutionnaire.
Moi, jure.
Hein ?
Moi, jure.
Et effectivement, lui, il est aussi anti-parlementariste. Donc, il est pour le fédéralisme, le mutualisme même. Des choses qu'il va mettre en place
dans les
bourses du travail. Hein, donc, la mutuelle, assurer les services... pour qui les bourses de travail, c'est assurer le service de mutualité, de coopération, d'éducation, mais aussi de résistance aux moyens de caisse de grève. Voilà, c'est aperçu. Bref.
Un outil de lutte.
Et notamment, il dit, déléguer le pouvoir de légiférer constitue une aliénation de la liberté. Ce qui n'est pas faux.
Hein? C'est absolument, c'est même carrément vrai. mais encore, c'est des choses simples, évidentes, comme ça, mais qui ne le sont pas pour tout le monde. Je le disais hors antenne tout à l'heure, Fabrice, c'est que... Et finalement, le danger ne vient pas tellement de l'antiparlementarisme institutionnel ou l'antiparlementarisme idéologique ou dogmatique, c'est l'antiparlementarisme individuel qui consiste à critiquer, à vilipender, mais à ne rien faire surtout, pour que ça change.
Mais justement, lui, Pelloutier, il veut que les choses changent. C'est pour ça que... J'ai pris quelques notes, et j'ai trouvé dans mes sources deux dates, 1892, 1894, dans les congrès. Mais bon, ça vient de Pelloutier quand même, dans cette période, 92-93. Donc le principe de la grève générale. Et là, effectivement, alors, même selon Georges Sorel, qui a écrit Réflexion sur la violence, la grève générale, c'est l'expression ultime de l'individualité. Mais ça permet collectivement de, pour reprendre ce que tu disais, enfin, pour aller contre ce que tu disais, ça permet collectivement de pouvoir agir. Mais c'est toujours sous l'impulsion, peut-être, d'un ou d'une un peu plus consciente que les autres. T'es pas convaincu ?
Non, parce que c'est... pas convaincu. Si, je suis convaincu du principe... Mais pas de la méthode, parce que de son efficacité.
Pour la grève générale, alors effectivement, selon Sorel, c'est un mythe. C'est plus un mythe qui quand tu adoptes l'idée de grève générale, c'est-à-dire que tu adoptes l'idée de lutte des classes. Et Pouget, justement, quand il a fait adopter lors du congrès, on va dire de 94 à Nantes peut-être. Le principe de la grève générale, c'est qu'il avait constaté que les grèves corporatistes, ça menait à l'échec en fin de compte. Ça faisait mitrailler la gueule, comme en 91 à Fourmi, pour une des plus connues. Mais bon, ça menait à l'échec. Pour lui, il fallait vraiment que tout le monde se mette en grève pour soutenir. Même ça relance l'idée de solidarité.
Ah oui, complètement. Ouais. Mais donc, ça reste d'actualité. Hein, c'est un sujet d'une vive actualité.
Mais là, c'était pas avant lui, il n'y avait pas vraiment cette idée. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de. Tu pouvais avoir des émeutes. Il y a eu les Canuts, ils se sont battus à Lyon. Ils ont défendu leur profession. Ça a été beaucoup plus loin. Après, effectivement, ils ont développé une conscience de classe. On va dire, et voire internationaliste, hein, parce que ça...
Mais
ça tire. La technicienne nous tire dessus, disons. J'ai dit des conneries.
Moi, je faisais un essai, mais je pensais que ça s'entendrait.
Ah bah oui, il faut appuyer sur Q pour pas que ça s'entende.
C'est ce que j'ai fait.
Eh bah, relâche le bouton. Elle aime bien me couper. La dernière fois, c'était avec des chats, en pleine discussion. Je sais plus ce que j'avais à dire. Bon, c'est pas grave. Oui, même si les canuts ont développé, à un moment, enfin, dans leur histoire, dans le cadre de leur lutte, une conscience de classe et avoir une vision internationale.
C'est aussi parce qu'ils avaient une conscience de classe qu'ils se sont révoltés. Ils ont construit une conscience de classe, ils ont pu se révolter, sinon c'est impossible. C'est-à-dire.
Je suis pas convaincu, mais. Les premières révoltes des canuts, non, c'est pas juste.
Sinon, ça aurait pas donné le mouvement un petit peu jusqu'au boutiste.
Non, mais ça s'est construit. C'est pas le premier jour où il y a eu des échecs. Oui. Et on sort, on prend la mairie, puis on se fait péter la gueule, et puis après ils s'organisent différemment. Mais, bon, bref, le but, c'était pas de. Mais avec Pelloutier, effectivement, on va s'orienter vers quelque chose. Alors, c'est peut-être aussi l'influence de la première internationale. Mais effectivement, il estime que la grève doit être générale. Et là, c'est à partir justement, c'est ce qui va construire un petit peu l'idée syndicaliste révolutionnaire. Et lui, il va réussir à fédérer effectivement les bourses du travail, qui ont un fonctionnement horizontal, avec la CGT, qui a un fonctionnement un peu plus vertical, puisqu'elle est constituée de syndicats, de fédérations, et pour aller jusqu'à la confédération. Enfin, la confédération. Mais tu...
Je te suis très bien. Et l'antiparlementarisme dans tout ça, la pensée antiparlementariste.
Alors il y a pas force. Enfin, le problème ne se pose plus dans la mesure où ils sont. L'antiparlementarisme, il n'est pas forcément évoqué. Alors il peut y avoir une critique des parlementaires du système parlementaire. Mais ce qui compte, c'est de mettre en place le fédéralisme syndical.
Donc on est sur un aparlementarisme.
Sur un aparlementarisme.
Voilà. Pelloutier comme moi. Moi, je suis comme Pelloutier.
Oui, c'est plutôt ça, oui.
Il ne l'a pas dit, j'ai dit. Il y a un fluide qui passe. Non, plus sérieusement, en fait, il y a un pas de côté du mouvement syndicaliste révolutionnaire, enfin du syndicalisme révolutionnaire, qui considère pas le parlementarisme, le parlement, les institutions, comme de toute façon devant être utilisés ou leur projet se construit à côté, sans considérer
le problème. Effectivement, oui, mais le problème, c'est qu'ils sont quand même dans une société. Dominé par le parlementarisme, par la République bourgeoise.
Et ses effets.
Ils sont obligés de lutter contre pour vouloir mettre quelque chose en place aussi. D'autres en place. Construire un autre futur.
Ben oui.
On est toujours à construire un autre futur.
Ouais. Tous les jours.
Ça fait plus de 100 ans. Ça commence à durer.
C'est comme la grève. Eh ben, la grève générale, par exemple, c'est un outil. Moi, je pense que c'est l'outil par excellence qui pourrait mettre renverser la table et vite si elle était réalisée et mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas si on le fait pas c'est parce que par exemple quelque chose qui était assez troublant au plus fort de la lutte des grèves et des manifestations contre la réforme
des retraites.
Il y avait 3 millions de personnes, d'individus dans les rues. Dans les rues, dans les usines d'occupation, etc. C'était assez exceptionnel, hein, faut le dire. mais a rapporté à 31 millions de, d'actifs.
Oui, mais, ouais, mais 30 millions d'actifs, enfin 29 déjà d'une. Dont 10 millions qui sont plutôt en, en auto, qu'on pourrait considérer en auto-partenariat. Il y a peut-être des petits artisans sans, sans salariés. Et, donc il y a vraiment 19 millions de,
ouais, mais
de
bon,
salariés et 10 millions sans leur propre patron.
Non, ouais, mais
tu aimes bien nous faire chier avec
les actifs. S'ils ont une conscience...
alors, s'ils 29 millions, ça ne fait pas 30.
Ah, oui. Les, ils sont, alors je vérifierai, mais non, moi j'ai 31 millions aux dernières nouvelles. Et bah, quand bien même, si tu es auto-exploité, parce que c'est ça les 10 millions de.
Mais non, mais tu sais toujours que ce sont des minorités, même dans le syndicalisme révolutionnaire, à la, de la grande époque, c'est-à-dire de 1901 à 1910. C'est bien que ce sont toujours des minorités. C'est les minorités qui l'emportent. D'ailleurs, les syndicalistes révolutionnaires se sont positionnés sur le. Comment dire, la notion de majorité ou de minorité. D'abord, tu participes, tu prends les décisions. Tous ceux qui ne participent pas, on peut estimer qu'ils sont d'accord. Même s'ils ne viennent pas, ils sont d'accord avec la minorité. Voilà. Ah, bah oui, non, mais c'est un point de vue. Hein.
Oui, c'est un point de vue, c'est ça.
Tu Macron, il fait l'inverse, lui. Il y a des gens qui ne s'expriment pas, donc ils ne sont pas d'accord. Voilà. Mmh. Nous, les syndicalistes révolutionnaires, on dit l'inverse. Ils ne s'expriment pas, c'est qu'ils sont d'accord.
Ouais,
c'est une question de point de vue.
Sauf ouais,
que,
ça,
sauf que
ouais.
Effectivement, bah, nous, les syndicalistes révolutionnaires, on ne passe pas à la télé en permanence pour pouvoir exprimer tout ça. Et Macron, il peut le faire quand il veut.
Oui, oui, oui.
Bah oui, bah, tu peux me dire oui.
Oui, mais c'est pas convaincant, mais oui, oui.
Je te donne le point de vue des syndicalistes révolutionnaires. C'est pas moi qui l'ai inventé.
Ouais, c'est pas, enfin, je suis pas convaincu. Quoi. Mais bon, ah, bah, ça
c'est
un débat.
C'est un point de vue. Tu sais bien que les. Alors, en plus, il y a quand même eu des études aux années, dans les années 60, et je ne citerai que Solomon H. sur le conformisme. Et effectivement, tu vas avoir des personnes qui vont se conformer à ceux qui prennent l'initiative. Donc c'est ça aussi le rôle des minorités agissantes, des minorités actives. C'est que bah, tout le monde ne va pas se bouger le cul. Mais en revanche, tu vas suivre le courant qui va te paraître le plus viable à un moment ou à un autre. Et c'est pas forcément par le gouvernement, ou le parlement. Ou le... C'est celui qui va inverser, renverser le rapport de force. Bah. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient tous avec Pétain.
Si.
Ils se fait péter la gueule. Ils sont tous avec De Gaulle. Voilà.
C'est
un peu simpliste hein, ce que je dis, mais
non, non,
c'est pas
loin
quand même.
Oui, c'est simpliste, mais en même temps, c'est assez.
Assez éloquent.
Assez éloquent. Ouais. Non, c'est très. L'avant-garde éclairée du prolétariat. J'aime bien ça aussi. La vanguarde éclairée de la révolution. Bon, enfin bref. Donc, nos amis
syndicalistes
révolutionnaires, antiparlementaristes, forcément, ou en tout cas parlementaristes, dans l'entre-deux-guerres aussi, moins.
Moi, j'avais pas fini. Hein. J'étais pas passé à Pouget encore.
Ah!
Ah, tu vas vite. L'anti-parlementarisme, c'est aussi contre le suffrage universel aussi. Parce qu'en fin de compte, le suffrage universel, ça suppose que si tu participes, tu vas voter, tu es d'accord avec le principe d'élection, de délégué. Donc, j'ai dit hein, tout à l'heure, hein, pour. Pour l'outil, hein, déléguer le pouvoir de légiférer constitue une aliénation de la liberté. Ça, c'est quelque chose qui va perdurer aussi. Et Pouget aussi, il est contre le bulletin de vote. Et contre ça, lui, il préconise effectivement l'action directe, c'est-à-dire la grève, le boycott et le sabotage. Sabotage que vous pouvez trouver à la librairie Publico. Un petit recueil tiré de Pouget. Moi, j'avais quelques petites... je fais une petite lecture de, hein, sur la notion d'égalité politique. Donc, c'est une mystification qui a servi de calmant aux masses populaires. Bon, ça, c'est pas lui qui le... Alors, et là, je cite, « Il n'est pourtant pas besoin de grande clairvoyance pour comprendre que le capitaliste et le prolo, le propriétaire terrien et le pauvre R ne sont pas égaux. L'égalité n'est pas réalisée parce que les uns et les autres sont nantis d'un bulletin de vote. » On trouve ça dans l'Action directe, bouquin qu'il écrit en 1910. Préconise le bien-être aussi. Parce que tout ça, c'est... Il y a le... Parce que tous les socialistes ont comme visée l'amélioration de la condition ouvrière. Là, je reviens, je mets tout dans le... Mais après, il y a les républicains de gouvernement, qui, une fois qu'ils sont au gouvernement, ont plutôt favorisé les milieux d'affaires. Et puis les républicains modérés, quand ils vont rentrer au gouvernement, ils vont plutôt réprimer, justement, les... brutalement les mouvements sociaux. Hein, genre du type de Georges Clemenceau, ou peut-être d'autres, je ne sais pas, Mirand, enfin bon, il a participé.
Clemenceau, c'est quand même...
Ah ben, il est pas mal, Clemenceau. C'est un bon exemple. Je vous rappelle que Clemenceau était aussi un exemple pour M. Macron.
Hmm?
Je crois que j'ai dit la dernière fois, mais j'aime bien le répéter. Donc, Pouget, il est aussi pour le bien-être, qui est c'est une préoccupation essentielle qui ne se produira qu'avec l'application, l'appropriation des richesses sociales, aujourd'hui, accaparées par la bourgeoisie, et à réorganiser la société sur des bases communistes, de façon qu'avec le minimum d'efforts productifs soit obtenu le maximum de bien-être. Voilà, c'est-à-dire, journée de 30 heures.
Oh, c'est déjà beaucoup.
Voire moins.
Des journées de 30 heures. Des semaines, tu veux dire.
Voilà. Non, donc, les syndicalistes révolutionnaires, c'est pas juste prôner le fédéralisme et puis la syndicalisation de la société. C'est pas juste pour se faire plaisir et prendre le pouvoir. C'est pour vraiment concevoir le travail autrement. Et d'abord, penser au bien-être. Et ça, c'est issu des, justement, des... Du travail qui a été fait dans les bourses du travail, où on a favorisé l'éducation, c'est-à-dire la prise de conscience, mais aussi réfléchir sur pourquoi on travaille. Et ce qu'il faut faire pour aujourd'hui, on travaille pour produire et faire des profits pour nos patrons. C'est-à-dire, on va travailler pour nous. Mais du coup, si on peut se priver de beaucoup de choses, enfin, pas se priver, mais si on n'a pas besoin de produire. On produit que ce qu'on a besoin, et puis on travaillera moins, on sera plus chez nous.
Ouais, j'ai posé la question sans filtre. À part Pouget, pas encore, mais ça, c'est un jour, ça se retrouvera. Certainement d'ailleurs. J'ai demandé à mes collègues, pourquoi ils travaillaient.
Ils ont dit, pourquoi pas?
Et tous m'ont répondu, c'est pour payer tout ce que j'ai à payer. Intéressant, quand même.
On est dans une société de consommation. Alors, d'une part, on consomme des biens dont on n'a pas besoin. Il n'y a pas une réelle utilité. Et puis, ce qui est utile, c'est de se loger, de se nourrir. Donc, effectivement, on donne le je dirais pas le strict minimum, mais les moyens de payer tout ça.
C'est le plus gros poste, le logement. C'est le plus gros poste budgétaire, le logement.
Ah bah oui. Une question qui ne se posait pas aux esclaves. Vous n'avez aucune liberté, ils étaient maltraités, mais ils n'avaient pas...
Les esclaves très riches.
Ils avaient, leur petit lopin de terre pour faire leur patates. Ils se faisaient à manger tout ça. Et maintenant, il faut l'acheter, nous. Et bio, en plus. Le plus cher. Bon, excusez-moi. C'était une blague, c'était du second degré, messieurs, dames. Mais n'empêche que le fond, si, c'est le salariat, c'est de l'esclavage moderne, où en fait, on a tout à... payer.
Ah oui, bon, c'est un modèle capitaliste, c'est un nouveau modèle capitaliste d'exploitation de l'homme par l'homme. Le capitalisme, il existait toujours, déjà à l'époque de la Rome antique. Hein. Faut croire. Mais là, il y avait de l'esclavage. C'est un côté folklorique. Et donc, alors, on était à Pouget.
Ben voilà, non, j'avais juste de petites notions sur l'égalité politique.
A-t-il traité de l'antiparlementarisme ?
Comment ?
A-t-il traité de l'antiparlementarisme ?
Alors, j'ai pas relu tout.
Ah bon ?
Parce que j'étais assez feignant, j'étais assez pris. Et on parle pas à proprement parler, il n'y a pas de texte sur l'antiparlementarisme. Mmh. Mais le fait qu'il soit sur un autre mode d'organisation sociale et politique, c'est leur expression de l'antiparlementarisme. Après, il y a la critique, il y a la critique sociale, il y a la critique des agissements des parlementaires, des prises de position qu'ils prennent, des critiques du patriotisme. Mmh. Il y a l'esprit de revanche hein, qui va nous amener à la guerre de 14-18 quand même. Mmh. J'ai pas trouvé la Pléiade d'Émile Pouget. Mais disons que j'ai pas tout lu, j'ai peut-être pas tout compris non plus, mais non, j'ai pas trouvé de texte à proprement parler qui traite en propre de l'antiparlementarisme.
Non, que c'était pas un sujet majeur. Pas plus que le parlementarisme.
Si on se rapporte à la charte d'Amiens de 1906, c'est. En fait, on se passe de parlement. Mmh. Oui, comme tu disais, ils sont aparlementaristes, en fait. Mmh. On va faire une révolution ou on va faire table rase. Mmh. Et on va remplacer l'institution républicaine bourgeoise par un fédéralisme syndical. Sur d'autres bases, une base horizontale et non plus verticale, avec des élus. Des personnes qui sont volontaires, et puis à la limite, avec des mandats impératifs.
Impératifs, révocables.
Mais le but, c'est pas de délire quelqu'un. Pour prendre des décisions, c'est de prendre une décision et de mandater quelqu'un pour le réaliser.
Pour l'exprimer.
C'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Donc j'ai pas trouvé de texte contre l'anti-parlementarisme.
Oui, contre le modèle parlementariste.
Voilà. Mmh. Mais il y a souvent des critiques.
Mmh. Non, c'est intéressant parce qu'il y a les centres de théoriciens. De l'antiparlementarisme réactionnaire, eux, ont théorisé, c'est pour ça. Mais parce qu'en fait, on est dans une autre perspective. C'est ce qui fait toujours la différence entre la réaction qui va aller contre quelque chose, donc qui revient en arrière, et la révolution qui, pour faire simple, qui va un peu caricatural, qui va de l'avant, hein, qui va de l'avant, qui essaie d'inventer autre chose.
Mais la différence entre l'antiparlementarisme, on va dire, de droite, et celle des syndicalistes révolutionnaires, c'est que les syndicalistes révolutionnaires se passent de l'État. Or, les antiparlementaristes, de nationalistes, vont se passer du Parlement, mais pas forcément de l'État. Pas vraiment sur les mêmes bases. Réfléchis-y.
Après, il y a un problème, oui, c'est le fait de ne pas avoir des électeurs, donc et des élus. Donc des parlementaires élus, c'est aussi ça soulève la question, je réfléchis un petit peu quand même, de la représentation et de la représentativité. qui sont deux choses bien distinctes. Parce qu'on est... est-ce qu'on est représenté? Donc la représentativité, est-ce qu'un élu représente... ses électeurs représentent les personnes vivant dans sa circonscription. Donc, est-ce qu'il est à l'image d'eux? Et la représentation, c'est le fait que lui soit en mesure de jouer un rôle de représentant. Tu vois? Et souvent, il y a un décalage entre les deux. Aujourd'hui, c'est je pense que c'est la question la plus qui préoccupe le plus les penseurs du politique. Quoi. Alors, est-ce que les anarcho-syndicalistes, syndicalistes révolutionnaires ont fait non, puisqu'ils se positionnaient pas en termes de représentation ou de représentativité.
Ben non.
Ce sont des concepts qui sont des concepts de la démocratie bourgeoise.
Oui. De toute façon, ce qui importe, c'est l'action directe. Alors, si je reprends Griffuel, c'est... Quant à l'action directe, hein, c'est l'action personnelle des ouvriers s'exerçant en dehors de toute considération légalitaire et de toute autorité d'en haut. Mmh. Voilà. Ça a imposé la volonté d'une minorité, non par les voies normales de la démocratie, en faisant appel au parlementarisme, mais en ayant recours à la violence. Bah, du coup, ça va pouvoir nous amener peut-être à ce qui se passe en ce moment.
Oui.
Tu voulais faire le lien aussi avec... alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui encore... Est-ce qu'il y a besoin d'être anti... Est-ce qu'il y a des anti-parlementaristes? Est-ce qu'il y a encore un parlement?
Oh bah il y a un parlement.
Il y a un parlement. Effectivement, et je crois que le pouvoir a trouvé le bon équilibre. C'est avant les parlementaires, bon bah ils faisaient des petits arrangements avec les patrons, les industriels, les financiers, et puis toucher des sous. Maintenant, bah alors, hop, on leur donne un emploi de parlementaire où ils n'ont plus rien à faire. Les récents événements sur la réforme des retraites nous l'ont montré. Le gouvernement n'a pas la majorité parlementaire, donc hop, il passe en 49-3. Et puis si ça ne suffit pas, de toute façon, au-dessus du Parlement, il y a le Conseil constitutionnel qui va suivre le Conseil
d'État qui sont là pour appuyer le pouvoir.
En fin de compte, il y a peu besoin de parlementarisme aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de parlement, il ne sert à rien.
C'est pour ça que le Parlement est un Parlement. De parlement des faits, et ça pose aussi la question de savoir ce qu'il représente aujourd'hui. Est-ce qu'il doit faire l'objet de et donc ça veut dire qu'il ne doit pas faire l'objet de critiques, qu'il faut simplement s'en débarrasser, s'en séparer, quoi. Ça, c'est le...
Moi, je trouve que les premiers anti-parlementaristes, c'est Macron. C'est depuis
Napoléon III aussi.
Ouais, mais on était sous l'Empire. On est sous une République où le peuple est souverain.
Ah, c'est drôle.
Bah oui, ça me fait rire, c'est pour ça que j'ai envie de le dire. Non, mais depuis la création de la constitution de la Ve République, en fin de compte. Ça a été fait pour que... Voilà. En fin de compte, si le Parlement est du côté de la majorité présidentielle, donc tout se passe bien. Ils vont voter les lois que propose le gouvernement, le président. On ne sait pas de qui il vient. Voilà. Et s'il n'y est pas, il y a possibilité de faire passer les lois quand même. Par le 49-3 ou... Donc... est-ce que la constitution de la Ve République n'est pas la constitution anti-parlementaire?
Ah, ça a été écrit, ça déjà. Le fait que la constitution de 1958 était anti-parlementaire. Alors, c'est de l'anti-parlementarisme institutionnel. et même constitutionnel. C'est assez intéressant parce que les promoteurs de cette 5e République, qui inclut quand même un Sénat et une Assemblée nationale, en fait, ont dévitalisé le pouvoir. Mais ça, c'est lié... alors, c'était au prétexte que sous la 3e et la 4e République, surtout la 4e. La 3e, on se souvient déjà moins, et puis c'est dans d'autres circonstances. Mais la 4e, c'était un bordel sans nom. Hein.
Oui, c'était la... comment ça s'appelait, la valse des...
Il y a eu, en 13 ans, il y a eu 14 ministères, ou je ne sais pas combien, enfin bref.
Mais la valse des ministères,
c'est vrai. Les ministères sautaient les uns après les autres. Et donc, c'était pour mettre un terme à ça. C'est ce qu'ont invoqué les Debré et compagnie quand ils ont... avec De Gaulle, écrit le texte constitutionnel. C'est pour arrêter l'anarchie. Moi, je peux être drôle.
Ah oui.
Et puis, bah voilà, c'était une confiscation. Mais bon, on l'a laissé quand même. Ça crée des postes. T'es marrant, toi.
Ah bah oui.
On leur dit, vous avez, de toute façon, tu ne sers plus à rien, mais t'es payé. T'as des indemnités, tu peux avoir un ou deux grouillots, une ou deux grouillottes, hein, pour t'aider à...
apporter les meubles.
Et puis, c'est tout.
Oui, mais
le Sénat, on est un aboutissement. Le gros cochon qui est au Sénat.
Arrête, si Macron meurt, c'est lui qui prend le...
Putain, sans déconner. C'est à lui qu'il faut envoyer le drone avec une seringue hypodermique.
C'est encore pété.
Ouais.
On va avoir des ennuis sur l'antenne de Radio Libertaire, hein, technicienne.
La chasse. Je suis contre la chasse. Mais...
Là, je gros cochon.
Je suis prêt à faire une exception. Mais voilà, alors eux, c'est vraiment l'institution qui ne sert à rien, si ce n'est à...
Ça permet d'avoir des élus locaux, c'est ce que je me disais. Enfin, c'est un petit peu comme les représentants du personnel dans l'entreprise, depuis les ordonnances, depuis 2017. Ouais. Enfin, 2008, déjà, ça avait commencé. Mais on n'est plus là que pour gérer les petits problèmes juridiques des salariés. Ouais. Il n'y a plus de... Ça sert plus, c'est de la merde.
Commander des dosettes par la machine à café.
Ouais, des conneries comme ça. Ouais. Mais ça marche, bon, ça marche bien. Ça marche pas si bien que ça, parce que ce matin, je crois que c'est ce matin, j'entendais, je sais plus son nom, un représentant de la CFE-CGC qui était invité sur France Inter. Mmh. J'écoute France Inter le matin, parce qu'il n'y a pas d'émission sur Radio Liberté, hein. C'est toujours le matin que j'écoute. Hein,
Il a son quitus.
Alors je sais plus son nom, mais effectivement, il a soulevé quand même quelques petits problèmes. Je crois que je les ai notés. Mais bon, ils arrivent quand même à avoir une critique. Alors il est pas contre le parlementarisme, lui, tu vois. Parce qu'en fin de compte. Oui, il s'en remet au parlementarisme. Ce qu'il voudrait, c'est que les décisions soient prises par l'Assemblée nationale. Mais bon, si l'Assemblée nationale prend une décision de merde, ça reste une décision de merde. Mais lui, il critiquait effectivement les ordonnances. Il estime qu'effectivement, depuis ça a vraiment commencé à aller mal avec les ordonnances. Mmh. Il y avait les lois travail et les ordonnances de Macron en 2017. Mmh. Donc ils arrivent quand même à avoir jeté un regard, effectivement, dire que voilà, depuis ces ordonnances, les CSE, ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui fonctionne dans l'entreprise. T'imagines, si les syndicalistes de la CGC, CFE, s'en rendent compte, qu'est-ce que ça doit être les autres? S'ils s'en rendent pas compte, faut qu'ils arrêtent le syndicalisme tout de suite. Non, je sais pas ce que...
Mais bon, là, pas ça. Le, le fonctionnement des CSS, hein, quand c'est un autre sujet. Mais
sur non, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a des institutions qui, des instances représentatives qui existent, mais qui sont là pour agir, comme tu disais, c'est faire de la biscuiterie dans les entreprises, et puis gérer les problèmes, essayer de gérer des problèmes locaux au sein des administrés pour les députés. Et puis mais au niveau du Parlement, on n'en a rien à foutre de leur connerie.
C'est des planques, on est très près du patron, comme on est très près du pouvoir au Sénat. C'est des planques aussi. Quand t'es élu, puis... alors maintenant, c'est vrai qu'il y a t'as un peu droit qu'à trois mandats successifs. Mais il y a qui fait carrière. En élu, et ça permet d'être à côté du patron, et puis pour peu que tu tiennes dans la, ils te tiennent dans la bonne main, et le Sénat c'est pareil, puis, ça permet d'être un peu tranquille.
Tiens dans la bonne main, puis ils font peur les patrons aussi. Donc faut avoir des tripes un peu pour contester le patron. J'en ai pas connu beaucoup qui contestaient le patron, jamais en fait.
Oui, mais faut, c'est pas, alors, au-delà des tripes, il faut aussi pouvoir réfléchir à ce que tu fais dans l'entreprise, quoi, aussi, comment fonctionne l'entreprise, comment faut s'intéresser, quoi, un petit peu. Sinon, tu peux dire, oh, je suis pas content, mais non, c'est un peu limité, quoi. C'est ça, c'est un
non, parce que c'est pas seulement
une fonction de production est terminée, quoi.
C'est pas le. Chacun s'y intéresse. Ouais, mais la vision n'est pas la même. Justement, quand tu n'as pas une vision de lutte des classes, tu as envie de te dire, il faut que l'entreprise prospère.
Double la boum.
Voilà, il faut qu'elle ouvre plus longtemps, plus tard possible le dimanche. Il faut qu'on fasse un accord pour pouvoir travailler le dimanche plus tard. Puis en fin de compte, personne n'y gagne. Il n'y a que le patron qui gagne, parce que de toute façon, c'est les machines, les caisses enregistreuses automatiques qui font le boulot. On va juste faire chier un vigile qui va être obligé d'être présent pour voilà, et peut-être un cadre qui va avoir des indemnités forfaitaires, mais le salarié n'a pas besoin. Fin de compte, donc je suis pas certain que
c'est la fin du salariat.
Ah oui, je dirais sur la fin du salariat. Bah, t'imagines, je disais, il y a 19 millions de salariés pour 10 millions d'assimilés autres entrepreneurs, presque la moitié. Un tiers. Bon. Enfin, bref.
Moi, je voudrais faire une émission sur l'auto-entreprise aussi, c'est intéressant. Ça un sujet. Oui, donc on en est à notre anti-parlementarisme, c'est faire le lien avec aujourd'hui.
Ah, est-ce que les manifs, les casserolades, les feux de poubelle qu'il y a eu, est-ce que la contestation c'est de l'anti-parlementarisme?
Ça, non.
Moi non.
Non.
Même les gilets jaunes, c'était pas tellement sur le Parlement les gilets jaunes. C'était plus à mon avis, à mon sens, c'était plus sur une demander à l'État. Il n'y a pas une remise en cause de l'État. L'anti-parlementarisme en fait, ça remet en cause l'État aussi. Hein. C'est pas juste le Parlement. C'est le fonctionnement
des institutions.
Ouais. Et donc, les gilets jaunes, c'était plutôt interpeller l'État pour qu'il mette en place un RIC.
Interpeller le bon prince.
Et puis, avant les casserolades, là, c'était. Enfin, les manifs, là, c'est plutôt qu'on redonne un petit peu plus de pouvoir au Parlement, en fin de compte. C'est pas de l'anti-parlementarisme. Il faut des. Camarades, vous nous écoutez, demain vous allez en manif, prenez conscience, tout ça, faut le foutre en l'air. Comme nous disait Sébastien, le chanteur René Binamé, Sébastien Faure.
Oui, mais ça, c'est plus. C'est, ça veut dire qu'il faut. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit la. C'est difficile de la prendre comme décision. Entre. Oui, on peut aller manifester, mais entre aller manifester. Enfin, je veux dire, la décision entre on va manifester pour ça, dire voilà, on veut plus de, on veut que le Parlement puisse s'exprimer, parce que c'est ça en fait, on veut plus du 49-3, on veut plus du laisser le Parlement légiférer, on veut s'exprimer à travers nos représentants. Alors, c'est pas la CNT quand même qui est comme ça, mais la plupart des syndicalistes, des autres confédérations. veulent un retour à la démocratie. Bah, je les écoute dans les... Dans les
oui, mais la démocratie bourgeoise. Bah, en fin de compte, ça reste bourgeois.
Ouais, ouais. C'est ça telle qu'elle fonctionne avec les lois qui vont au Parlement. Là, les
mais
parce que,
non, mais de toute façon, imagine qu'il y a eu une majorité au Parlement, une majorité présidentielle. Ça ne serait pas passé par le 49-3, mais non, ça serait passé quand même, la réforme des retraites. Qu'ils veulent, les gens. À un moment, il faut pousser un peu la réflexion plus loin.
Bah, déjà,
et les syndicats, bon, après, ils ne vont pas trop faire confiance aux syndicats non plus. Hein.
Ne pas aller voter quoi, pour des représentants qui ne représentent qu'eux-mêmes. Enfin, c'est un peu la base aussi, quoi. Parce que c'est ça, c'est que... alors, il y a des théories qui disent que même si on est, ils étaient élus avec 10% des voix, ils seraient quand même légitimes. Moi, ça m'étonne un peu, quand même. Pas tous ces trop de balles à l'Assemblée. Ouais.
Ça dépend quand tu décomptes les abstentions, les votes blancs et puis tout ça. Comme il y a une inscrite. De toute façon, c'est les inscrits qui comptent. Hein. De toute façon, ils peuvent même, j'ai entendu faire un référendum pour les retraites. Mais moi, je suis pas inscrit. Je vais pas voter. Je suis contre les retraites. Donc j'en ai rien à foutre de leur référendum à la con. On a bien vu ce que ça a donné en 68, on voit bien ce que ça a donné tout le temps.
Et puis si ça plaît pas, ça sera comme en 2005 avec l'Europe. On fera autre chose autrement.
Il y a que la grève générale. Et comme dit Georges Sorel, elle est la manifestation la plus éclatante de la force individualiste.
Et pourquoi faire ensuite, c'est ça, qu'est-ce qu'on va en faire une fois qu'on a fait la grève générale? C'est-à-dire qu'il faut préparer quelque chose.
Non, mais c'est la grève générale dans le cadre du syndicalisme révolutionnaire, monsieur.
Bah oui, mais il faut le dire à l'antenne, à nos auditeurs.
Dernier quoi?
La grève générale. Donc, que peut-on dire, que doit-on dire à tous ces manifestants de demain qui veulent rétablir, je ne parle pas de la CNT, de camarades de la CNT, qui veulent rétablir les pouvoirs du Parlement pour qu'il n'y ait plus le 49-3, jamais plus le 49-3.
Allez-vous faire déjà, n'allez pas derrière la CGT, n'allez pas derrière les partis politiques, déjà d'une. N'allez pas derrière les grands syndicats qui, de toute façon, je me rappelle quand même Martinez. C'est Martinez hein, qui s'appelait le... Des coups de Martinez. Il avait quand même appelé, c'est un bruti, il a quand même appelé à voter Macron au deuxième tour. Alors ça, c'est
par
carrément...
Par crème du fascisme.
Ouais, non mais c'est quoi ce naze? Alors on voit qu'il vient du Parti communiste, celui-là aussi. Hein. Non mais franchement... Et puis après, il vient pleurer. Ah, bah, m'a pas écouté. Tu parles que l'autre, il doit se fendre la gueule. Il m'a donné son vote. Et puis maintenant, il vient pleurer. Non, mais. Et les mecs de la CGT, ils restent là-dedans. Ils donnent leur cotisation là-dedans pour entendre des abrutis pareils. Mais putain, faut le faire quand même. Hein.
La CFDT, c'est pareil. Hein.
Non, mais oui, c'est pas du syndicalisme, la CFDT.
Enfin,
la CGT non plus. Et en tant que ça n'en est plus. Depuis 1910, ça n'en est plus.
C'est quand même des syndicats. Alors, je ne sais pas si c'est du syndicalisme, mais c'est quand même des syndicats. Quoi. Et qui sont les syndicats majoritaires.
Rentrer dans des syndicats de copropriétaires, hein, ça sera aussi bien à ce moment-là. Ça sera peut-être même plus efficace.
Ouais. À votre copropriétaire.
Syndicats de locataires. Non, mais... des syndicats comme ça. Non, mais franchement.
Ben oui, mais bon... Mais comment veux-tu convaincre les masses de faire la grève générale si tu leur dis que c'est des trous de cul qui sont pas qui sont trompés de syndicalisme? Tu peux pas avoir la grève générale, t'auras qu'une grève petite, grève partielle.
Eh ben on la fera pas aussi, oui c'est.
Et puis tu vois que on est attaché au parlementarisme, on veut plus de 49-3, on le dit, laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre notre vie. Bah, tu vois, plus de 49-3, enfin. C'est un scandale. Tous ces parlementaires muselés. Mais quand je les vois, je regardais pas. Enfin, des fois, je regardais le CP. Oh, j'ai envie de les asseoir sur une chaise, leur mettre des tartes, par brasser. Quoique après, t'as mal aux mains. Moi, je dis, il faut faire attention.
Une petite machine qui...
Ah oui.
Tac, 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 tac.
Oui, mais t'as pas le plaisir.
Ah bah.
T'as pas le plaisir.
Oh bah.
C'est gros cochon.
Je peux dire un truc de Sorel quand même.
Oui, je t'en prie.
Entre la simple promenade menaçante, donc ce qui va se passer demain, et l'émeute pourrait prendre place la grève générale politique qui serait susceptible d'un très grand nombre de variétés. Elle peut être de courte durée et pacifique, ayant pour but de montrer au gouvernement qu'il fait fausse route et qu'il y a des forces capables de lui résister. Elle peut aussi être le premier acte d'émeute sanglante. Voilà ce que j'ai à dire, c'est tout, rien de plus.
Oh putain, radical ce soir.
Ben merde.
Radical.
Ah non, mais faut arrêter, quoi.
Il finit par un gros mot.
Et ça, c'est dans le chapitre 5 de réflexion sur la violence, la grève générale politique, selon Sorel. Bon, Sorel, moi, je vous encourage à lire, c'est un peu soporifique. Moi, je trouve ça un peu soporifique, Sorel. Il a jamais été. Il a défendu le syndicalisme révolutionnaire sans avoir jamais appartenu à la CGT. Mais il était en admiration devant Pelloutier. Un petit peu comme moi.
Bon, après cette séance-là de psychanalyse, nous allons passer aux annonces militantes.
Voilà, chaque numéro.
Alors, les annonces militantes, du tout de suite d'emblée. Le 23 juin à 10h30, place de la Sorbonne à Paris, il faut éteindre la flamme olympique. Donc, le collectif,
Saccage 2024.
Saccage 2024 vous propose d'éteindre la flamme olympique.
Sur son passage.
Sur son passage. Alors,
si vous avez ça, c'est l'action directe, c'est bien ça.
Si vous avez une casserole, après avoir utilisé la casserole pour faire du bruit, vous la remplissez d'eau, puis vous allez éteindre la flamme.
Voilà.
C'est explicite sur le tract de nos amis de Saccage 2024. Arrêtons avec les Jeux Olympiques, avec tout. Ouais. Les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde.
Bon, demain, il y a quand même une. Là, ça va être plus proche, c'est oui. Demain. Il y a la manif interprofessionnelle.
Oui.
Essaye de meubler, tant que je retrouve mes petites notes, j'ai mis ça dans ma poche.
La manif interprofessionnelle qui fait invalide à la jambe de bois. Invalide. Ouais.
C'est invalide. C'est rue de Grenelle, boulevard des Invalides.
Ah, c'est invalide.
Ça, c'est l'itinéraire principal. Hein. Boulevard Montparnasse, boulevard du Port-Royal, avenue des Gobelins, jusqu'à la place d'Italie. Et il devrait y avoir un délestage qui passerait par le quai d'Orsay, boulevard Saint-Germain.
Le quai d'Orsay.
Oui, bon, c'est ce que. L'information.
On n'est pas très loin de l'Assemblée nationale.
Eh ben oui. Et puis donc, qu'est-ce qu'il nous disait, Sorel, hein, il peut aussi être le premier acte d'émeute sanglante. Ah, oh, arrêtez.
Monsieur Sorel.
Plutôt que de faire une petite promenade. Entre la simple promenade menaçante. Bon, bref. Donc voilà, et tout ça, ça se termine à la place d'Italie.
Voilà, c'est ça, c'est place d'Italie, j'avais oublié.
Ouais. On va se dire au revoir.
Oui.
Parce qu'il est, il est l'heure de se quitter. Il y a les copains des Muses s'amusent. Je ne sais pas où ils sont.
Ils s'amusent.
Ouais. On va passer le générique de fin. Mmh. On se retrouve le 19 juin avec Jean-Michel Rodrigo pour une deuxième partie d'une émission qu'on avait entamée sur Via El Salvador, une ville dont il a fait un film documentaire et qui raconte donc cette ville autogérée qui s'est construite dans le désert sur rien, et on va essayer d'aborder l'aspect économique et financier de voilà, et il y aura Jean-Manuel avec nous aussi.
Excellent.
Voilà.
C'est très intéressant, le premier opus est très intéressant. J'espère qu'on sera tout aussi intéressant cette fois-ci.
Il n'y a pas de raison. Donc, à dans 15 jours.
Oui.
Voilà.
Allez,
Salut à tous et toutes.
Salut, ciao.
On envoie le générique et puis on laisse la place aux copains de lui s'amuser.
Distance ou même encore maintenant, flirter avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord, faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux.
C'est que vous. Partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Et que vos beaux yeux inhumains face à d'autres tous les sourires que vous étaliez sur mon pain. Ô Notre-Dame de mes traites que vous n'avez jamais payée, vous dont la robe bleue est faite de tous mes papiers bleus d'huissier de mes...
Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Je suis en direct. Alors, comme je suis en direct, j'en profite pour vous dire que nous sommes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, que ce soir, ce sont les Muses s'amusent, avec Christiane à la technique et moi-même, Nestor, au micro. Point d'invité, parce que ça aurait été un peu compliqué, parce que ce soir... Nous parlons d'un livre étrange que, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai trouvé chez un bouquiniste des Quais de Seine et dont l'auteur a un nom encore plus étrange pour nous autres occidentaux, car il s'appelle Mia Tantint. Tan avec un H-T-H-T-N-Tint. C'est un birman. Et le livre s'appelle « Sur la route de Mandalay ». Histoire de gens ordinaires en Birmanie. Ça a été publié par les éditions Olizan à Genève. Et me direz-vous, de quoi s'agit-il ? Eh bien, j'espère que parmi les auditrices et les auditeurs de Radio Libertaire, il y a des gens qui ont lu, en français parce qu'il est disponible en français, en anglais parce que ça serait mieux, les merveilleux livres de Studd Terkel. Studd Terkel, c'est un journaliste de radio américain qui a fait des milliers d'interviews et qui en a transcrit